Mais effectivement, c'est le fait que dans ces quatre illustrations, scénarios, il y a la notion d'équipe, et derrière la notion d'équipe, il y a la notion aussi de que si chacun dans ces situations-là fait un peu ce qu'il veut dans son coin, ça va vite tourner à la cata. Mais à partir du moment où ils arrivent à être unis, à ce moment-là, il y a des grandes choses qui se passent. On est d'accord ? Donc ce matin, j'aimerais vous parler effectivement d'être unis, de l'unité. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça ce matin ? C'est parce qu'on aimerait revenir un petit peu sur notre vision d'église. On avait établi pendant notre week-end d'église au mois d'octobre, on avait lancé un petit peu une réflexion en disant mais finalement quelle est notre vision de notre église ici à Pontcharra. Et on avait réfléchi d'une part à la mission de l'église d'une manière générale, où il y a beaucoup d'aspects dans la mission de l'église, et puis on s'est dit mais qu'est-ce qui nous caractérise nous ici à Pontcharra et quels sont les éléments de la mission de l'église qui nous paraissent particulièrement pertinents, sur lequel on se sent particulièrement appelé à vivre quelque chose ici entre nous. Et on avait mis on avait identifié deux choses qu'on a essayé de résumer sous cette phrase, sous ce slogan de cheminons ensemble. Le premier aspect, c'est que on est ensemble, en marche, en croissance, pour un temps. Il y a des gens qui sont venus, d'autres qui sont partis. On a été bénis pendant ce temps qu'on a vécu ensemble. Mais on a fait un petit bout de chemin ensemble. Et si vous vous souvenez, au mois de janvier, Jean-Jacques nous avait apporté une prédication sur ce sujet en se basant sur les disciples d'Emmaüs. Et ce qu'il nous avait partagé, merci Jean-Jacques pour tes notes, c'était qu'il y avait trois mouvements dans cette histoire des disciples d'Emmaüs. Et il y avait trois invitations. L'invitation à marcher, comme ces deux disciples qui marchent avec Jésus sans même savoir que c'est Jésus. Mais cette marche, c'est le temps pour eux où ils expriment leur tristesse, leurs pensées, leurs doutes, leurs questionnements. C'est un temps d'échange, un temps de discussion entre eux et avec Jésus. Et puis dans cette marche, il y avait aussi un temps d'arrêt. Un temps pour se reposer, un temps pour se ressourcer, pour retrouver ses forces quand les disciples sont arrivés à leur lieu. Et pour eux, ce temps de pause, ça a été un temps où ils ont pu inviter Jésus dans leur intimité. Ils l'ont invité à prendre un repas avec lui. Ils lui font de la place dans ce temps de repos et de ressourcement. Et dans ce moment... À ce moment, pardon, leurs yeux s'ouvrent, ils découvrent que c'est Jésus, et là, ils passent dans un troisième temps, qui est de repartir. Quand ils découvrent que Jésus était leur compagnon de route, ils repartent aussitôt parce que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont entendu, était tellement exceptionnel qu'ils doivent le partager, qu'ils doivent le dire. Alors, ils ne restent pas et se remettent en route. Cheminons ensemble. Dans notre réflexion du mois d'octobre, il y avait un autre aspect qu'on avait mis en avant, qui était le fait que nous voulons avoir des relations fortes, nous voulons avoir des relations fraternelles, être des soutiens les uns pour les autres, vivre des choses fortes ensemble, être ensemble. Alors, le mot « ensemble » rejoint un petit peu cette idée, mais on s'était dit, quand on y a réfléchi, on s'est dit, mais ça le fait pas assez ressortir, cet aspect-là, de ces relations fortes, de ces relations de fraternité. Et donc, on a ajouté un sous-slogan, « Une famille unie pour glorifier Dieu ». Parce que c'est vrai que nous sommes une famille. On a été adoptés par Dieu, nous sommes tous devenus fils et filles de Dieu. Mais être une famille, c'est pas toujours le plus compliqué ni le plus simple. Et on a peut-être expérimenté au travers d'un repas de famille, de fête de fin d'année, de vacances passées ensemble, que les tensions, les agacements peuvent ressortir. Et l'enjeu, finalement, c'est pas simplement d'être une famille, mais c'est d'être une famille unie. Voilà pourquoi nous voulons avoir des relations fortes. Voilà pourquoi nous avons des relations fortes, parce que nous sommes une famille unie. Et cette question de l'unité, elle rejoint un désir profond de Christ lui-même. Dans l'évangile de Jean, Jean nous partage un moment, enfin il nous partage plein de choses. Moi je trouve que les évangiles sont d'une richesse absolument phénoménale. Mais dans celui de Jean, à un moment donné, dans Jean 17, il nous partage un moment exceptionnel, un moment d'intimité de Jésus dans la prière avec le Père. On n'a pas beaucoup, très peu, c'est peut-être même la seule, j'ai pas trop réfléchi à la question, c'est peut-être même le seul cas, où on a une retranscription d'un temps que Jésus avait avec le Père dans sa prière. Donc c'est un moment d'une intimité incroyable et d'une intensité aussi incroyable parce que c'est juste avant la croix. Et ce qu'on peut lire dans ce chapitre 17 de l'évangile de Jean, c'est que Jésus prie pour lui, Jésus prie pour ses disciples, et Jésus prie pour nous. Pour les disciples qui sont devenus disciples à la suite de ce que les premiers disciples ont dit. Et dans ce moment d'intensité, d'intimité incroyable, il y a des choses particulièrement touchantes qui ressortent. Et je vous invite à lire ces quelques versets, le verset 11 et puis ensuite les versets 20 à 23. Verset 11, quand Jésus prie pour ses disciples. « Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous le sommes. » Un peu plus loin, au verset 20, quand il prie pour nous, pour tous ceux qui ont entendu le témoignage des premiers disciples, ce n'est pas seulement, pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leurs paroles. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Si ça paraissait pas très clairement, la question de l'unité est plutôt évidente dans ce passage-là. On la retrouve à cinq moments. Jésus demande au Père qu'il soit un, qu'il soit uni. Pas juste qu'ils s'entendent bien, mais qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Et ce qui est intéressant, c'est pas simplement que c'est le désir de Jésus, mais c'est que, au travers de ce désir, il y a une démonstration. Au travers de l'unité, il y a le témoignage que Jésus est bien l'envoyé de Dieu. Que derrière la vie et les actions de Jésus, il y a Dieu le Père. Et moi, quand je lis ça, je me dis, mais comment est-ce que notre unité, elle est ou elle correspond à ce témoignage, cette preuve que Jésus est vraiment l'envoyé du Père? Quel est le lien entre ces deux éléments-là? Et puis l'unité, ça veut dire quoi l'unité? Jusqu'où l'unité? Cette question de l'unité, on la trouve dans cette prière de Jésus, dans le désir de Jésus, mais on la trouve même de manière plus large dans le plan de Dieu. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, Paul démarre cette lettre par une prière, une louange qui dure 14 versets. Et vu que la lettre, elle était envoyée pour être lue à l'église, je me dis, le gars qui a dû la lire, moi je cherche les fins de phrase pour reprendre mon souffle. Au bout de 14 versets, il a dit oh! Mais si vous vous souvenez de ce passage-là, il est absolument fabuleux. Il est juste fabuleux. Au milieu de ce passage-là, il nous dit « Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan, le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et on voit que le désir de Jésus de l'unité entre ses disciples, il s'inscrit même dans un plan encore plus grand. Le plan de Dieu de tout réunir sous la direction du Christ. Tout réunir sous la direction du Christ. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que finalement, quand on se rappelle de la chute où tout était harmonieusement réuni, on voit que qu'est-ce que produit la chute ? C'est qu'il n'y a plus l'harmonie. Il n'y a plus... Ce qui était uni se trouve désuni. La relation entre l'homme et la femme, la relation de l'homme avec Dieu, la relation de l'homme avec la nature, il y a des choses qui sont brisées et Dieu, dans son projet de restauration, veut rassembler, veut réunir, veut remettre l'harmonie. L'unité dans le plan de Dieu, dans le désir de Christ. Mais en même temps, quand on y réfléchit deux minutes, si la Bible nous parle d'unité, elle nous parle aussi de séparation. De séparation. Déjà nous, avec le monde, je ne vais même pas rentrer dans le détail de ça, parce qu'il y a plein de versets qui parlent de ça, mais pas juste simplement nous avec le monde, Jésus va même un peu plus loin. On a étudié Matthieu pendant quelques mois, quelques années même, donc vous maîtrisez totalement tous les versets de Matthieu maintenant. Mais à un moment donné, dans le chapitre 7, qu'est-ce que dit Jésus ? Il dit, au chapitre 7, verset 21, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Waouh ! Jésus dit qu'ils seront nombreux, ceux-là. Nombreux ceux qui auront prophétisé au nom de Jésus, qui auront fait des miracles au nom de Jésus, qui auront chassé des démons au nom de Jésus. Nombreux sont ceux qui vont se réclamer de Jésus. Mais Jésus leur dira : « Je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai jamais connu. » Il n'y a pas d'unité, là. On a parlé de Jean et de son évangile, il a écrit aussi deux lettres, Jean. Et dans sa deuxième lettre, de Jean 9, il parle de personnes dans l'Église qui parlent de Jésus, qui se reconnaissent en Jésus, mais qui, pour qui le fait que Jésus soit pleinement Dieu, pleinement homme, c'est difficilement conciliable. Et donc, ils ont commencé à penser que finalement, Jésus avait l'apparence d'un homme, comme s'il avait vécu une tunique. C'est une tendance qu'on appelle le docétisme, pour ceux qui veulent le terme exact. Et Jean va leur rappeler, donc c'est des gens qui reconnaissent Jésus, qui s'attachent à Jésus. Et Jean va leur rappeler l'enseignement que lui et les autres apôtres ont donné à propos de Jésus, qu'il était pleinement homme. Et il va dire, celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne Christ, c'est-à-dire celui que lui a donné, mais veut le dépasser, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui se tient à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison, ne lui adressez pas la salutation fraternelle. C'est raide. On est à la limite de la politesse. Et on est en train de parler des gens qui sont dans l'église et qui parlent de Jésus. Et Jean leur dit non, là il faut qu'il y ait une séparation nette. Ne leur dites même pas bonjour. Paul, dans sa lettre aux Galates, s'oppose aussi à certaines déviations. Et il s'oppose à ce qu'on appelle les judaïsants. Et les judaïsants, c'est qui ? C'est des gens qui croient en Jésus. C'est des gens qui le reconnaissent comme Messie. Mais c'est des gens qui croient aussi qu'il faut suivre la loi de Moïse et en particulier la circoncision pour être juste devant Dieu. Et les Galates ont tendance à a commencé à croire ça aussi. Et il leur dit, je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et veulent renverser l'évangile de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Puis, au cas où ce n'est pas clair, il va même le redire dans le verset suivant. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez entendu, qu'il soit maudit. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'unité possible avec ces gens-là, avec les gens qui croient de telles choses. Désir d'unité, d'un côté, et puis besoin de séparation d'un autre côté. Comment est-ce qu'on peut concilier tout cela ? Où tracer la limite ? Alors heureusement, Paul vient à notre secours dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4. Et qu'est-ce qu'il nous dit Paul au chapitre 4 ? Il nous dit « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance. » Celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Qu'est-ce que nous dit Paul dans ce passage-là ? Ce qu'il nous dit déjà, c'est qu'on a été appelés. Donc ça nous concerne tous. Il n'est pas en train de dire ceux qui ont le don, ceux qui ont envie, ceux qui ont le temps. Vous avez été appelés et ça dépend que de Dieu. Vous avez été appelé à vivre une espérance. Et il nous dit, puisque vous avez été appelé, vous devez vous conduire d'une certaine manière, d'une manière digne et cohérente de cet appel. C'est ce qu'il dit là. Je vous demande instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Et ça veut dire quoi, vivre de manière cohérente et digne de cet appel ? Ça veut dire soyez toujours humble. De temps en temps, quand ça vous arrange, non, toujours. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. C'est-à-dire soutenez-vous les uns les autres et supportez ceux qui sont insupportables. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Conservez l'unité que donne l'Esprit. L'unité, c'est d'abord et avant tout quelque chose que Dieu nous donne. Et on se souvient, quand on a lu Jean 17, est-ce que Jésus est en train de donner un commandement à ses disciples ? Non, il est en train de prier. Il est en train de parler au Père. Donc l'unité, c'est d'abord quelque chose que Dieu nous donne en réponse à la prière que Jésus a faite. Vous êtes unis. Donc maintenant, conservez cette unité. Conservez cette unité en étant humble, empreint de douceur, patient, en se supportant, avec l'amour, avec la paix. Et l'enjeu pour nous, c'est justement de ne pas séparer quelque chose que Dieu a uni. De la même manière, ce n'est pas d'unir que quelque chose que Dieu a voulu séparer. Mais là, la question, c'est de conserver cette unité. Conserver cette unité que nous donne l'Esprit. Mais elle nous vient d'où cette unité ? Elle nous vient du fait qu'il y a un seul. Un seul. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Alors évidemment, il n'y en a pas plusieurs. Quelqu'un pensait qu'il y en avait plusieurs ? Mais quand il dit un seul, il est en train de dire le bon. Moi, je me souviens du témoignage de Fred, quand il nous avait parlé de son témoignage et qu'il nous avait dit que son ami lui avait parlé de Jésus. Et il avait dit « Mais moi, je connais Jésus. » Mais en fait, c'était un autre Jésus que je connaissais. « Mais Fred, il n'y a pas d'autre Jésus. » Non, c'est vrai, il n'y a pas d'autre Jésus. Mais il s'était fait une idée d'un autre Jésus. De la même manière, quand Paul il parle aux Galates, il dit « Mais vous vous tournez vers un autre évangile comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. » Donc là, il n'est pas en train de dire qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Il est en train de dire, est-ce que vous êtes sûr que vous avez choisi le bon ? Que vous avez compris qui était le bon ? Parce qu'il n'y a qu'un seul corps de Christ. Il n'y a pas deux corps, il n'y a pas plusieurs corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule église. Il n'y a pas plusieurs églises pour Dieu. Il n'y a qu'une seule église. Nous sommes membres de quelque chose qui dépasse complètement l'église locale. Et cette unité du corps qui nous le donne, c'est l'esprit. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit que nous sommes appelés à ne pas éteindre ou attrister, mais à le laisser faire son œuvre de sanctification pour nous transformer, pour nous rendre semblables à Christ, pour nous permettre de saisir l'espérance que Dieu nous donne. Parce qu'il n'y a qu'une seule espérance. Être semblable à Christ, être saint, être mis à part pour lui. Vivre pleinement le royaume, être dans la présence de Dieu. Voilà l'espérance que nous avons. Et cette espérance, elle est tournée vers le Seigneur parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. De la même manière, il n'y a qu'une seule manière de saisir cela au travers de la seule foi que Dieu nous donne, la foi vivante, active, qui cherche à produire des œuvres, à vivre d'une manière digne de cet appel. Et nous avons répondu à cet appel, c'est le sens du baptême. Il y a une seule manière de nous engager pour Dieu. On n'a pas participé à un rite, mais on s'est engagé pour Dieu, publiquement devant tout le monde, en disant maintenant, tu es mon Seigneur et mon Sauveur et je te suis. Et nous témoignons publiquement de cet engagement total que nous avons fait. Que nous avons donné notre vie au seul Dieu qui existe, Père de tous. En disant cela, qu'est-ce que Paul est en train de faire ? Il est en train de dire qu'il y a des questions théologiques ou doctrinales, c'est-à-dire ce qu'on croit vraiment, qui sont des questions d'ordre primaire et essentiel. Et sans ces questions-là, sans l'accord là-dessus, il ne peut pas y avoir d'unité. Et ça veut dire qu'il y a aussi des questions secondaires. Des questions secondaires qui doivent se régler comment ? Elles doivent se régler dans le respect de l'unité donnée par Dieu, avec humilité, douceur, patience, en se supportant, etc. etc. Secondaire, ça ne veut pas dire que c'est des questions négligeables. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des questions qui vont parfois nous irriter, ou avec lesquelles on va avoir des difficultés. Mais ce n'est pas ce qui fait l'unité. C'est les questions qu'il va falloir régler avec ces qualités d'humilité, de douceur, de patience. Et effectivement, dans nos églises locales, on voit bien qu'on a des pratiques qui sont parfois complètement différentes. On voit bien que certains mettent des accents particuliers sur certains sujets qui ne vivent pas tout à fait la même chose que nous. Et quand je parle de différentes églises, on peut penser à différentes églises évangéliques, mais on peut aussi penser à différentes églises chrétiennes et l'œcuménisme là-dedans. Et la promotion ou l'organisation d'actions communes entre les différents courants du christianisme, les catholiques, les orthodoxes, les luthériens, les protestants, les évangéliques, etc. etc. Je ne vais pas aller dans le détail de cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de cas spécifiques, il vaut mieux les... C'est difficile de donner des généralités, et c'est dangereux de donner des généralités. Mais ce que je vois, c'est qu'on a besoin de sagesse et de discernement, et de dialogue, pour comprendre le sens, la croyance de ces pratiques différentes, de ces façons de vivre les choses différemment, pour savoir si on est sur le même fondement ou pas. Parce qu'on est vite parfois tenté d'avoir une certaine naïveté, avec plein de bonnes intentions, et de chercher à créer une unité là où il n'y en a pas forcément. Mais à la fois, on peut être très vite tenté de se dire « ils sont différents ». Et par nature, ce qui est différent, on a tendance à le rejeter. Mais ils ne font pas comme nous, c'est qu'ils se sont trompés. Ils ont tort. Parce que nous, on a mieux compris. Mais j'aimerais juste remarquer avec vous que quand Paul il écrit ça, il n'est pas en train de régler un problème inter-église ou interconfessionnel. Il est en train d'écrire à une église locale, vous là, à Éphèse, l'église locale d'Éphèse. Conservez l'unité. Les critères dont on a parlé, le seul corps, seul esprit, seule espérance, c'est des choses qui sont précieuses, importantes pour vivre, comprendre l'œcuménisme. Mais Paul est déjà en train de le dire à l'église locale, conservez l'unité que vous a donnée l'esprit. Soyez humbles, plein de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Voilà comment vous devez régler vos désaccords, parce qu'il y en aura des désaccords. Voilà comment vous devez régler vos tensions sur ce qui n'est pas fondamental, sur ce qui n'est pas le cœur de l'évangile. Mais quelques versets plus loin, il va même aller encore un peu plus loin, Paul. Parce qu'il va dire, il a fait don de ses hommes, et il fait référence à ce qu'il dit au verset 11, où il parle des apôtres, des enseignants, des prophètes et des évangélistes, c'est-à-dire des gens qui ont des dons que Dieu leur a donnés au sujet de la parole que Dieu amène. Des gens qui vont amener la parole de Dieu, expliquer la parole de Dieu, etc. Donc les apôtres, les enseignants, les prophètes. Il a fait don de ses hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Paul nous parle encore de l'unité et de parvenir à l'unité. L'unité nous est donnée, mais en même temps, on doit continuer de progresser dans cette unité. C'est un peu comme si Dieu nous donne quelque chose, mais à nous maintenant de le faire vivre, pour le rendre complètement vivant, pertinent, efficace. Comme si Dieu nous donnait la structure et le gros œuvre, et puis à nous de faire les finitions, et de vivre dans la maison. Oui, c'est là. Mais vous avez aussi votre part pour aller encore plus loin dans ce que je vous ai donné. Ce que nous dit Paul, c'est que l'unité va de pair avec la maturité. Cet état d'adulte où nous réalisons et vivons, que nous avons tout pleinement en Christ. L'unité va de pair avec grandir, grandir individuellement, grandir collectivement vers Christ. Progresser dans la direction de Jésus. Il nous dit aussi que l'unité se base sur la vérité. L'unité ne peut pas se faire si on n'est pas dans la vérité. Ça mériterait presque qu'on fasse un message là-dessus. J'aurai pas le temps, mais je le mentionne juste. Petite parenthèse, et je referme la parenthèse. Comment parvenons-nous à cet état de vérité, de maturité? Il y a la question de la vérité, bien sûr. Mais ce qu'il nous dit, c'est que ainsi nous parvenons à l'unité, comment? En accomplissant le service. L'unité vient de toutes les articulations. Pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. C'est-à-dire que l'unité se caractérise par le fait que chacun accomplit son service, chaque jointure, chaque partie du corps fait le travail pour lequel elle a été faite, designée, prévue. L'unité se construit, se renforce, grandit par le service, l'activité de chacun. En vue de quoi? En vue de la construction du corps de Christ. Et là, on peut faire le lien avec notre première réflexion. En quoi l'unité est-elle une démonstration que Jésus est bien le Christ, il est bien l'envoyé de Dieu? Eh bien, réfléchissons à quel est le sens de notre unité. Dans quel cas vivons-nous un moment d'unité? Sortons du cadre de l'Église. On regarde les infos, on se dit « Ah, ça, c'est un grand moment d'unité nationale. » Ou « Ça, c'est un grand moment d'unité. » C'est dans quel cas? C'est dans le cas où il y a un enjeu immense. Une équipe qui doit remporter la finale. Un pays qui se fait attaquer. On peut penser à l'Ukraine, où il parlait de l'unité derrière des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose où toutes nos aspirations personnelles, toutes nos individualités ne disparaissent pas, mais se mettent au service du collectif, de l'enjeu, de la mission qu'il y a derrière. Et je ne parle pas de sentiment, parce que souvent quand on parle d'unité, on parle de sentiment. Moi je parle de réalité et de l'objectif qu'il y a derrière. Et ce que nous dit Paul, c'est qu'il y a l'unité parce que nous œuvrons, nous servons, nous sommes à notre place en vue de quelque chose qui est la construction du corps de Christ. Et ce quelque chose, c'est ce qui nous amène à l'unité. Parce que nous sommes face à un projet, à une mission, à un enjeu qui nous dépasse, qui est tellement important, tellement glorieux que peu importe nos différences, on a tous ça en vue et on œuvre tous et on va tous dans cette direction-là. La Bible regorge d'images pour décrire cette mission et cette cause que nous défendons. Nous sommes des soldats engagés à la suite du Christ pour faire progresser le royaume de Dieu. Nous sommes des athlètes qui faisons des sacrifices et nous entraînons constamment en vue de la victoire. Nous sommes des cultivateurs qui sans relâche semons, arrosons, prenons soin de la récolte car la moisson est proche. Dans toutes ces images-là, il y a quoi ? Il y a la consécration. Il n'y a rien de plus important pour nous que ça. On s'est engagé pour ça, on vit pour ça. La tradition nous dit que la plupart des apôtres sont morts pour cette cause, pour la construction du corps de Christ. Aujourd'hui, des chrétiens meurent encore parce qu'ils veulent rester fidèles, attachés à ce corps de Christ. Ils sont attachés à cette construction. Nous nous sommes engagés, nous sommes consacrés à quelque chose qui dépasse notre vie et qui, s'il le faut, mérite qu'on meure pour cette cause. Nous sommes engagés dans une cause pour laquelle on a choisi de dédier notre vie. On est prêt à se sacrifier, on est prêt à passer du temps pour ça. On donne de notre argent dans la boîte au fond de l'église ou à d'autres œuvres parce qu'on a envie de voir ce corps grandir. On a envie que les gens se tournent vers Dieu, découvrent à quel point il est un Dieu merveilleux, découvrent son amour, sa grâce, son pardon. Pour ceux qui se sont déjà tournés vers Dieu, on a envie de les voir persévérer, de les voir mûrir, de les voir tenir ferme dans l'adversité, être fidèles jusqu'au bout. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour Jésus ? L'Église. Il le compare à son épouse. Il le compare à son corps. Et si nous sommes à sa suite, alors oui, l'Église est tellement précieuse. Notre unité, c'est effectivement le témoignage que Jésus n'est pas n'importe qui et qu'il a bien été envoyé par Dieu. Il n'y a pas de communauté plus disparate, plus hétéroclite que l'Église. Elle englobe des personnes de tous niveaux sociaux, de toute culture, de toute nation, de toute génération, de toute époque. Être unis et ne pas s'attacher à nos différences, à nos désaccords, c'est souligner l'importance de celui qui nous lie, et c'est le Christ. Et parce que malgré toutes nos différences, on est unis, on est en train de dire que ce qui nous unit, c'est tellement important. Et c'est lui. À cause de lui, nous avons choisi de dédier notre vie. Nous avons fait le même choix, pris le même engagement, peu importe nos différences. En conclusion, être une famille unie, c'est pas juste partager les mêmes bonnes valeurs ou passer du bon temps ensemble ou être sympa. Bien sûr, on vit ça et on a envie de le vivre. Mais qu'est-ce qui fait le cœur de notre unité ? C'est qu'on est inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand que nos propres vies. On va dans la même direction. On s'est consacré au même objectif, celui de continuer l'œuvre de Christ. Et ce lien qui nous unit, cette unité que Dieu nous donne, que nous vivons, que nous construisons, c'est tellement fort que ça mérite qu'on mette nos différences, nos désaccords de côté. Et quand on a du mal à les mettre de côté, alors, soyons toujours humbles, empreints de douceur et patience. Supportons-nous les uns les autres avec amour. Efforçons-nous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui nous lie les uns aux autres. Nous sommes une famille unie. Nous voulons continuer d'être une famille unie. Nous voulons œuvrer pour être une famille unie. Parce que ce que nous partageons est tellement fort, est tellement important, est tellement essentiel. Ce lien qui nous unit de manière si forte et si précieuse, c'est Christ. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, je voudrais te demander pardon. Pardon parce que je ne réalise pas toujours à quel point ce à quoi tu nous appelles est tellement grand et glorieux. Merci pour l'unité que tu as instaurée dans ton Église, la seule et unique Église, entre tous ceux qui veulent te suivre, qui veulent t'obéir, qui veulent te connaître, qui veulent œuvrer à la croissance de ton corps. Seigneur, aide-nous à avoir nos regards fixés là-dessus, sur toi. Que nous puissions témoigner pour dire à quel point tu es grand, à quel point tu es merveilleux. Que nous puissions témoigner de ta grâce, de ton amour, de ton accueil. Que nous puissions hâter la venue de ton royaume. Que nous puissions nous soutenir, nous supporter, nous aider les uns les autres dans l'humilité, la patience, la douceur. Que nous puissions vivre cette unité que tu veux pour nous, afin qu'en toute chose, Seigneur, nous puissions te glorifier. Nous puissions dire à quel point tu es grand et merveilleux. Merci pour tout. Amen.